Donc je titrerai ce matin, si on peut voir le PowerPoint, si ça marche. Donc l'ambassade de Dieu à Chinon. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? J'espère qu'on va découvrir ensemble. Donc effectivement, si on peut mettre le premier slide. Normalement j'ai un zapper qui le fait automatiquement, mais j'ai oublié. Donc je ne l'ai pas, donc le zapper ça va être le jeune homme là-bas. Effectivement, comme Vincent a dit, on est dans la semaine universelle de prière. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ça se passe tous les ans, je pense, depuis un bon moment en France. Et c'est le moment pour les églises protestantes de se réunir ensemble et effectivement de prier. Donc c'était à partir de la dimanche dernière jusqu'à aujourd'hui. Et donc effectivement, on fait cet échange de chair pendant la semaine universelle de prière. Quand j'arrivais à Tours et j'ai entendu ça pour la première fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire quoi? On va échanger des chaises? On va prendre les chaises plastiques de CDLR, on va changer avec les belles chaises en bois que vous avez ici, et au fur et à mesure comme ça, on aurait les chaises communes. Non, c'est pas ça. Mais effectivement, c'est une très bonne opportunité d'échanger pour les différents pasteurs, de se connaître et de voir ce qui se passe dans nos régions. Parce que nous, on a une vision effectivement de Bousignac, de centre-ville de Tours, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, voilà. Et le thème de cette semaine, comme tous les ans, je crois, le mettre, c'est unité. Donc effectivement, chaque jour, il y a une petite piste de réflexion. J'ai triché parce qu'il y a la piste de réflexion pour aujourd'hui. Donc j'ai pris une partie des versets pour aujourd'hui et une partie des versets pour hier. Bon, c'est pas grave. Hein? Vous me pardonnez? C'est permis. Mais effectivement, le thème est unité. Et les versets, effectivement, d'hier, j'aimerais bien qu'on les lit ensemble. Donc je vous invite à lire avec moi. Jean 17, 20, 21, 22, 23. Je ne prie pas seulement pour eux ensemble, mais aussi pour ceux qui croient en moi grâce à leur message. Je prie pour que tu sois un. Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi, tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Donc j'imagine que tout le monde connaît le contexte. C'est le jeudi soir. Jésus est ensemble avec ses disciples dans la chambre d'eau. Et juste avant de partir pour aller dans le jardin de Gethsémane, il prie. On peut imaginer, c'est les prières les plus importantes pour lui. Là, il n'a pas beaucoup de temps. Il sait que Judas arrive, que les soldats arrivent, qu'il va devoir sortir, il va devoir suivre la mission que Dieu lui a donnée. Mais il prend le temps pour prier pour les sujets qui sont les plus importants pour lui. Et donc il a prié d'abord pour ses disciples. Il a prié pour leur protection, il a prié pour leur efficacité. Mais comme il dit en verset 20, il ne prie pas seulement pour eux, les disciples, mais aussi pour ceux qui croient en lui, en Jésus, grâce à le message. Et donc, nous sommes dedans. Hein, ce n'était pas juste pour les premiers chrétiens de l'église primitive qui croyaient en Jésus. Non, c'est tous ceux qui croient en Jésus. Et donc, nous, on fait partie. Et donc, qu'est-ce qu'il prie? Il prie qu'ils soient un, unis, comme Jésus et le Père sont unis. Comment? Parce qu'il a donné la gloire. Et donc, sachant que Jésus vit en nous et que Dieu vit en Jésus, on peut être parfaitement un. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça soit possible. Si Jésus prie, ça veut dire que c'est possible. C'est pourquoi il faut qu'on soit un. Parce que le message finit afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. C'est comme s'il y a une condition. Pour que le monde croie en Dieu, il faut que son peuple soit uni. Mais en fait, La vision de Dieu ne serait pas avec l'Église. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus grande que ça. Et donc on va prendre le prochain slide. Parce que Paul nous parle d'un plan secret de Dieu. Il dit que quelque chose était caché. Il y a un mystère qui depuis des siècles n'a pas été connu. Mais maintenant, grâce à Jésus, le monde peut connaître le plan de Dieu. Et donc ce plan, il est écrit en Éphésiens, il est écrit à Ephésus. Et donc on va lire ensemble également. Ephésiens 1, 9 et 10. Il nous a fait connaître son plan secret, que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Donc, Paul dit c'est secret, sauf c'est plus secret parce qu'il s'est écrit. Bon. Il dit c'est dans la bienveillance de Dieu. Dieu n'avait pas forcément obligation de révéler ses plans, mais il l'a fait. Il a décidé de faire ça. C'est un plan qui achèvera quand? À la fin des temps. Et c'est quoi ce plan? C'est de réunir la même racine de être un, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, sous un seul chef, qui? Jésus. Ça, c'est le plan de Dieu. Et donc, c'est évident que si tu veux atteindre tout le monde, tout soit uni, il faut bien commencer avec le peuple de Dieu. Si le peuple de Dieu, déjà, n'est pas uni, comment tu peux attendre que le plan de Dieu peut s'achever correctement? Jésus, la dernière chose qu'il a fait avant de prendre le chemin de la croix, c'est de prier pour ça. Parce que lui a compris le plan ultime de Dieu. Mais la vraie question, je pense, c'est comment? Comment ce plan va se réaliser? Comment Dieu a prévu que ce soit mis en place? Et je crois que Paul nous donne des indices dans sa lettre à Corinthe, la deuxième lettre aux Corinthiens. On va la lire ensemble. C'est un peu long, il y a deux slides, mais on va la lire ensemble. Donc 2 Corinthiens 5, 17 jusqu'à 6, 2. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quand Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. On va reprendre ce passage que Paul a écrit à Corinthe. On va le prendre verset par verset. On va commencer avec le verset 17. Paul écrit, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je crois que tout le monde a compris cela. En tant que chrétien, on a tous compris, on est né de nouveau. On est une nouvelle créature. Même si parfois, on a du mal à quitter l'ancienne chair. Même si parfois, on le remet régulièrement. On a quand même compris que Dieu a fait une œuvre en nous. Il a changé quelque chose en nous. On n'est plus pareil qu'avant. On a changé. On a changé par la grâce. C'est très important. C'est très important qu'on connaisse qui on est. Cette connaissance, qu'on est nouvelle, qu'il n'y ait pas de condamnation, que Dieu nous aime, qu'il nous a choisis, qu'il nous a changés, qu'on a la vie éternelle, c'est très important pour qu'on, quand on vit sur terre, on arrive à être efficace. Tu sais, l'ennemi, il a passé des siècles à mentir à l'Église, à dire au peuple de Dieu, « Oh non, non, nouvelle, vous êtes nuls. Ah, vous êtes bon pour rien. » Et on commence à y croire des fois qu'on n'est pas capable, nous, d'avoir un impact parce qu'on n'est pas digne, on ne mérite pas forcément toute la grâce de Dieu. Ça, c'est vrai. La grâce de Dieu n'est pas méritée. Mais par la grâce de Dieu, on est changé. On est nouvelle. Et donc, Dieu remplace toutes les mauvaises choses qui étaient en nous par sa justice qui est parfaite. Donc, je vous invite de dire à votre voisin, tu es une nouvelle créature en Christ. Vas-y. On va prendre le verset 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc on voit qu'effectivement il y avait un processus, une transaction qui a eu lieu. Il y avait une réconciliation. Déjà, chacun de nous avec Christ, avec Dieu, pardon, par Christ. Il nous a donné, nous derrière, le ministère. Il y a une délégation. Donc une transaction suivie par une délégation. Il délègue à son peuple ce ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes leur faute, Dieu merci, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, je pense que Paul, ici, il révèle encore plus comment le plan de Dieu, le plan ultime de Dieu, va se réaliser. Ça commence avec un processus de réconciliation. Chaque croyant avec Dieu, et à la suite, c'est une délégation de ce responsabilité, de ce rôle à chacun de nous. C'est moi, je suis père. J'ai 4 enfants. J'aime beaucoup travailler avec eux. Moi, j'aime jardiner. J'ai la chance d'avoir un jardin assez grande. J'aime quand les garçons ils sortent avec moi et font du travail dans le jardin. Ça me fait quelque chose. Malheureusement, ils n'ont pas forcément le même désir que moi. C'est souvent le cas. Aiden, tu peux fermer tes oreilles parce qu'il ne faut pas que tu entends. Il y a des fois qu'ils sautent avec enthousiasme, avec un désir. Oui, papa, on va t'aider. Et 2 minutes plus tard, tu peux rentrer maintenant. Oh non, je ne vais pas faire ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, je voulais faire des choses excitantes. Bon. J'adore travailler avec mes enfants. Mes enfants n'ont pas encore trouvé le même désir. Mais tu sais, Dieu est un père. Et lui, il adore travailler avec ses enfants. Il a décidé de mettre tout en œuvre par ses enfants. Il aurait pu faire des miracles. Poum! Explosion à Chino. Tout le monde voit qu'il y a quelque chose de miraculeux qui s'est fait. Dieu vient avec sa gloire. Tout le monde est converti instantanément. C'est comme ça qu'il a prévu? Non. Parce que Dieu aime travailler avec ses enfants. Et donc, il nous a délégué le ministère de la réconciliation. Et il a mis en nous, quoi, il dit à la fin, la parole de la réconciliation. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour être capable de réaliser le plan de Dieu. Si on prend le prochain slide, donc c'est un extrait de ma dictionnaire en ligne biblique. Donc c'est le lexique grec qui dit que ce mot réconciliation, en fait, c'est le mot katalage. Vincent, tu peux corriger ma prononciation en grec si c'est pas bon. Et en fait, donc, c'est un mot qui se trouve 4 fois dans la Bible, toujours en Nouveau Testament, parce que c'est en grec, c'est normal. 2 fois en romain et 2 fois dans ce passage de Paul aux Corinthiens. Et donc, en fait, il y a 2 notions de ce mot réconciliation à l'époque. C'était un mot qui était utilisé quand il y avait un échange ou un change. Par exemple, le travail d'échange de monnaie en valeur équivalente. Donc, quand on changeait des euros pour les livres sterling, hein, c'est un très bon échange, si vous voulez ça, on dit qu'il y avait une réconciliation qui était faite. Quand il y avait les changements des francs, des euros, réconciliation qui était faite, quand c'était valeur équivalente. Effectivement, si on change 10 livres sterling pour 5 euros, c'est pas bon. Parce que le livre est plus fort que l'euro. Pas beaucoup. Hein? De moins en moins, mais bon. Donc, c'est effectivement cette idée d'échange de change. Ou, dans une deuxième idée de ce mot catalogué, un ajustement d'une différence, une réconciliation. Donc, c'est là le terme, nous, qu'on a appris plus. C'est effectivement quand il y a une différence entre des gens, si on arrive à résoudre la colère entre eux, et on y devient un nouveau ami, là, on dit qu'il y avait une réconciliation. Mais Paul, il a pris ce terme. Il a utilisé ce mot pour, effectivement, la deuxième explication 2A. Dans le Nouveau Testament, la restauration de la faveur de Dieu pour les pécheurs qui se repentent et mettent leur confiance dans le mort expiatoire de Christ. Donc, il a pris un mot qui était déjà dans le vocabulaire des jours, et il l'a utilisé pour ce principe-là. Réconciliation, parce que avant on était séparés. Réconciliation, parce que avant on était sous peine de mort. Réconciliation, parce que avant on n'avait pas de relation avec le Père. Et donc, ce réconciliation, c'est quoi? C'est un échange. Dieu échange nos péchés pour sa justice. C'est une très bonne affaire. Il échange la peine de mort pour la vie éternelle. C'est encore une meilleure affaire. Et il échange la séparation qu'on a avec notre Père éternel pour une relation fils-père ou fille-père. C'est ça la réconciliation. Et c'est ça qu'il veut faire dans le monde entier. Il veut réconcilier toutes choses avec lui. Comment? En déléguant cette responsabilité, ce rôle à son peuple. En donnant à chacun les paroles de la réconciliation. On va regarder versets 20-21. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Paul, il explique la réconciliation dans une autre façon. Parce que même à son époque, il y avait des ambassadeurs. Chaque État, chaque roi, parce que c'était plutôt les rois à l'époque ou les empereurs, ils envoyaient dans les différents pays, dans les différents États, leur représentatif, qui était l'ambassadeur, l'ambassadrice. Et ce personne-là, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'email, il n'y avait même pas de mobile, il n'y avait même pas de ligne fixe. C'est difficile à imaginer, mais c'est le cas. Il y avait les pigeons, il y avait les hommes qui couraient, il y avait des chariots, je ne sais pas. Bon, ce n'était pas facile. Donc, l'ambassadeur était déconnecté de son roi et il devait représenter le roi en tout sujet, en tout intérêt, avec l'autorité de le roi lui-même. Et donc Paul dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Effectivement, les ambassadeurs, ils habitaient loin de chez eux. On va voir juste après. Donc, qui l'ambassadeur? C'est qui l'ambassadeur de cette église? C'est Vincent? Oui? Il est ambassadeur. Est-ce qu'il est le seul? Non. Non, il n'est pas le seul. Parce que nous sommes tous ambassadeurs. Le verset 21, ça explique cet échange qui a été fait. Ça résume l'échange. Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, Il a fait devenir péché. Donc Jésus, il a pris nos péchés en lui-même. Il est devenu maudit par rapport à ça. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Quand Dieu nous voit, il ne voit plus nos péchés. Il voit sa justice. Parce que l'échange, la réconciliation a été fait. Si on prend un dictionnaire, donc là c'est la russe. Là on voit que c'est un dictionnaire d'une république. Hein, parce qu'un dictionnaire dans un royaume dit d'abord le roi. Là l'ambassadeur représente qui? Le chef d'État. C'est pas pareil, mais bon, c'est le même principe. Donc ça vient de l'italien ambasciatore. C'est le représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, accrédité auprès du chef d'État et dirigeant la mission diplomatique. Donc, effectivement, c'est une explication de ces jours-ci, mais le principe reste pareil. Ou ça peut être quelqu'un ponctuel, représentant personnel du chef de l'État pour un temps limité ou une mission donnée dans plusieurs pays, donc des ambassadeurs itinérants. Donc l'ambassadeur vit dans un pays étranger, dans la même façon que nous habitons dans un monde étranger. Paul nous dit, on n'est pas de ce monde. L'ambassadeur représente le roi. Qu'est-ce qui donne l'importance à l'ambassadeur? Est-ce que c'est ses propres talents? Est-ce que c'est ses propres dons? Est-ce que c'est ses propres compétences? Est-ce que c'est son autorité naturelle? Ou est-ce que c'est l'importance, l'autorité du roi qui représente? C'est le dernier. On est bien d'accord. Si on vient d'un tout petit pays, on ne va jamais avoir la même influence que l'ambassadeur des États-Unis, ou la Chine, ou l'Inde, ou tous les autres pays importants, même la France, l'Angleterre. Donc, l'importance d'ambassadeur ne vient pas de lui-même. L'importance de l'ambassadeur vient de celui qu'il représente. L'ambassadeur de Christ représente qui? Christ. Christ a un autre nom. Qu'est-ce qu'il est? Il est roi des rois. Celui qui représente le roi des rois est forcément plus important que n'importe quel autre ambassadeur qui représente qui que soit d'autre. Parce que nous représentons le roi éternel des rois. Amen. J'ai cru comprendre que Chinon était une ville royale. Je n'ai pas entendu. Capitale de la France. C'est intéressant parce que le premier roi qui a construit la forteresse de Chinon, c'était qui? C'était un Anglais. C'était un plan d'Agenais. C'était le duc d'Anjou qui était en même temps le roi de l'Angleterre. C'était Henri II qui s'est marié avec Éléonore d'Aquitaine et qui a eu comme fils un de nos rois favoris, mais finalement il a passé quelques semaines en Angleterre, le reste du temps à l'étranger, Richard, cœur de lion. Et la forteresse de Chinon a été construite par Henri II et Richard, cœur de lion. Et c'est que Philippe Auguste, Augustus, je ne sais pas comment on dit ça, qui a pu assiéger la forteresse et qui a réussi à prendre ça dans le royaume de France. Mais c'est vrai, c'est une ville royale, c'est une forteresse royale. En France, on a tué le roi. Il n'y en a plus. On a fait une tentative de les remettre, la famille royale, ça n'a pas marché, donc on a redevenu république. Mais il y a un roi de la France. C'est Jésus. Il est le seul roi de la France. C'est celui qui règne, qui veut régner sur tous les pays du monde. On a vu l'objectif, le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses sous un seul chef, Jésus. Et donc nous, on est ambassadeurs, ambassadrices, pour ce chef, en représentant Jésus. Et donc, forcément, un ambassadeur, il vit dans une ambassade. Voilà l'ambassade de Dieu à Chinon. Enfin, c'est pas à Chinon, c'est à Saint-Lazare, mais bon, on va dire c'est à Chinon. C'est un quartier de Chinon? Parfait. Donc, l'ambassade de Dieu à Chinon. Pendant des siècles, l'Église n'a pas forcément communiqué la vérité, parce qu'on a souvent dit que l'Église, c'est le bâtiment. Je vois sur le site web que vous avez effectivement dit que l'Église n'est pas le lieu, c'est plutôt un groupe de gens qui se réunissent ensemble pour exprimer leur foi. Ça, c'est tout à fait juste. Et en fait, c'est une ambassade de Dieu à Chinon, c'est vrai. Vous avez une vitrine, il n'y a rien caché. Vous avez effectivement la capacité à communiquer vers le monde tout ce qui se passe. Mais ce n'est pas la seule ambassade. Parce que chacun de vous, vous avez une maison, au moins j'imagine. Au moins une tente ou une caravane ou quelque chose, mais vous avez un lieu de résidence. Et chacun de ces lieux, c'est une ambassade de Dieu. Parce que vous êtes tous ambassadeurs, ambassadrices. Amen. Si on continue. Chapitre 6, 1 et 2. Puisque nous travaillons ensemble, c'est qui le nous? C'est nous et Dieu. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Paul dit en anglais co-worker, co-travailleur, les gens qui travaillent ensemble. Nous vous exhortons, c'est Paul et ses gens, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Effectivement, pour devenir chrétien, on a reçu la grâce de Dieu. On est incapable même de faire une décision, de prendre une décision pour Jésus, sans avoir la grâce de Dieu, sans avoir reçu ce qu'on ne mérite pas. Mais c'est possible, Paul le dit, de recevoir cette grâce en vain. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je pense, c'est si on garde cette grâce pour nous, c'est en vain. Parce que Dieu n'a jamais prévu que la grâce reste avec nous. Il a prévu que nous soyons les récepteurs de grâce et les transmetteurs de grâce. Que c'est un processus de « je suis rempli par la grâce de Dieu, je déverse la grâce vers les gens autour de moi. » Et donc Paul rappelle un passage qui vient de Ésaïe 49, quand il dit « au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour de celui, je t'ai secouru. » Et Paul dit, maintenant, c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant que cette grâce que vous avez reçue a besoin d'être déversée, d'être partagée avec les gens autour. L'ennemi a passé des siècles à mentir, à dire que c'est juste le prêtre ou le pasteur qui est habilité à partager la parole. Et que tous les gens dans l'église, eux, ils sont bons pour rien. Ils sont simplement là pour chauffer les sièges. On revient aux chaises qu'on échange à chaque fois. On a oublié qui on est en Christ. On a oublié quel rôle qu'on a dans le royaume de Dieu. On a oublié qu'on est ambassadeur, ambassadrice. Et il nous a donné la parole de la réconciliation. Ce n'est pas une critique. C'est un constat que j'applique à moi-même. Que si on savait qui on était réellement et on a compris qu'on a ce rôle d'ambassadeur, le ministère de la réconciliation, et qu'on est capable d'avoir une influence, pas parce qu'on a des talents ou parce qu'on est bon en soi-même, mais parce qu'on représente le roi des rois. Je pense que le ministère de la réconciliation est négligé. Pas chez vous, hein, je parle de mon église à moi. Mais c'est négligé parce qu'on a peur. On est intimidé. On est insécure. Et on n'ose plus parler, partager, échanger avec les gens. Et Paul nous rappelle, ce n'est pas l'année prochaine. Ce n'est pas en 2020. Ce n'est même pas la semaine prochaine. c'est maintenant. C'est maintenant. Il y a 8000 personnes à Chino. Il y a 8000 personnes qui ont besoin d'entendre la parole, qui ont besoin de connaître Dieu. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils sont sous la peine de mort. Et ils ont besoin de cette transaction qui échange, cette séparation pour une vraie relation avec Dieu. Quand Vincent m'a invité de venir, je me posais la question, mais qu'est-ce que je connais de Chino ? Si on peut prendre le prochain slide. Et donc, première chose, effectivement, je savais qu'il y a une forteresse. Je ne savais pas que c'était construit par Henri II et Richard Coeur de Lion, mais je savais qu'il y a une forteresse. Forteresse, c'est un endroit sûr. C'est un endroit que le roi peut venir avec sa cour, c'est ça ? Son entourage. Et il peut effectivement décider les affaires d'État. Où il peut simplement s'amuser, passer du temps ensemble. Deuxième chose qui est venue à l'esprit, voilà. Ça c'est mon favori, hein. Château de la Grille. Chinon, c'est très bon. Ah, bien sûr, absolument, à prendre en modération. Et comme je disais, la réalité, c'est Chinon, c'est ni sa forteresse, ni ses bouteilles de vin. C'est les gens qui y habitent. Et c'est les gens, donc c'est les Chinonais, c'est ça, les Chinonaises qui habitent dans la ville et autour. Et Dieu, il a un plan pour Chinon. C'est le même plan. C'est de réunir toutes choses sous un seul chef, Jésus-Christ. À la fois forteresse et vin, c'est également les symboles bibliques. Dieu est notre forteresse. Tant que les gens de Chinon croient qu'ils sont protégés parce qu'il y a un bâtiment, ils se trompent. Mais le jour qu'ils comprennent que Dieu est un lieu sûr pour eux, ça va changer. Et le vin, on parle souvent de vin nouveau. Je sais que c'est beaucoup mieux que le Beaujolais. Hein. Il n'y a pas de doute. Mais le vin nouveau, ça parle du réveil. Ça parle de awakening, on dit en anglais. Les gens se réveillent, les gens retournent vers Dieu. Et la France aujourd'hui a besoin d'un réveil. Chinon a besoin d'un réveil. Les gens sont perdus, les gens sont en train de mourir. Les gens ne savent même pas qu'ils se sont trompés. Ils ont besoin d'entendre la parole. Ils ont besoin de comprendre la transaction que Dieu propose, la réconciliation qui est possible. Et Jésus, il aimerait reprendre Chinon pour lui-même. Qui a des voisins ici? Ah bon? Qui travaille et a des collègues de travail? Pas beaucoup. Ah, vous ne travaillez pas? Bon. Qui a des amis ou le membre de la famille dans la région? Aujourd'hui, mais depuis toujours, Dieu nous appelle à être ambassadeurs auprès de ces gens. Nos voisins, nos collègues, nos amis, les membres de nos familles. Ils n'attendent pas qu'on soit miraculeux. C'est moi, j'avais souvent une image, je suis chrétien, je suis ambassadeur, je marche dans la rue, les gens, ils constatent quelque chose, ils voient qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas pareil, ils se jettent par terre, ils demandent, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Peut-être un jour ça arrivera. Mais ce n'est pas ça d'être d'ambassadeur. Tu sais, il y a les gens à l'extérieur qui ne cherchent pas. Ils ne savent même pas qu'ils ont un problème. Ils pensent que tout va bien. Et ces gens-là, notre rôle, c'est simplement de peut-être poser des questions, de faire une petite prise de connaissance, de conscience, que oui, ils ont un problème. Il y a des gens qui savent qu'ils ont un problème, mais ils n'ont pas encore la motivation pour chercher une solution. Cela, notre objectif en tant qu'ambassadeur, c'est simplement de les aider à voir qu'il peut y avoir des solutions. Et ces solutions se trouvent dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui savent qu'ils ont un problème, qui savent qu'il faut chercher, qui cherchent, mais ils ne cherchent pas forcément dans le bon endroit. Ils cherchent dans le yoga, ou dans l'occultisme, ou dans l'humanisme, ou tous les autres ismes qu'on a inventés aujourd'hui. Et eux, notre rôle d'ambassadeur, c'est de dire, c'est bien que tu sais qu'il y a un problème, c'est bien que tu cherches, mais j'ai peur que tu te trompes dans ta recherche. Viens, c'est là la vraie solution. Il y a des gens qui savent qu'ils ont un problème, qui ont cherché, qui ont senti un début de ce plan de solution de salut de Dieu. Et eux, ils ont juste besoin de quelqu'un qui peut dire, priez avec moi. Il peut y avoir des fois que les gens qui se trouvent dans la première catégorie, ils vont directement vers le salut. Mais c'est rare. Mais en revanche, ce processus de salut qui prend du temps, nous, on a la possibilité d'être là au bon moment, au bon endroit, avec simplement une parole de réconciliation, de grâce, pour aider les gens à aller un peu plus loin sur le chemin. On est une vingtaine ce matin. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. Vous avez tous au moins deux voisins, typiquement. Vous avez tous une dizaine de collègues de travail, sûrement. Vous avez tous plusieurs membres de la famille, plusieurs amis. Donc déjà, si on imagine tous les gens qui sont déjà en contact avec un ambassadeur de Christ, on touche peut-être déjà 400 personnes, voire plus. Et Dieu demande simplement qu'on accepte ce rôle de ministère de réconciliation et on exerce la parole qu'il a mise en nous. Il y a des gens très connus qui ont un lien avec Chinon. Celui à gauche, c'est Saint-Martin de Tours qui partage sa robe avec une pauvre. Enfin, c'est un peu idéalistique, hein? C'est une peinture de la Renaissance, mais bon. Saint-Martin de Tours qui, a priori, prenait une sentier de rive gauche de la Vienne pour aller de Tours à Saumur. Bon, donc il a dû passer par Chinon, même par Saint-Lazare, peut-être, si c'est la rive gauche. Rive gauche, on est là. Oui. Au milieu, Jeanne d'Arc. Donc, si on est français et on est anglais, on n'a pas forcément une vision, mais ce n'est pas grave. En tout cas, Jeanne d'Arc, elle est venue à Chinon. C'est là qu'elle a annoncé le plan de Dieu. Celui à droite, Monsieur Rabelais, François, celui qui est très connu, que selon les différentes versions, il est soit humaniste, soit chrétien humaniste, soit chrétien, enfin, on ne sait pas. En tout cas, il a une influence importante sur la France, sur la façon de penser, sur la façon d'agir. Mais mon point, c'est quoi? Ces gens-là sont rien par rapport aux ambassadeurs de Christ. Ils y étaient peut-être, je ne sais pas. Mais les gens les plus importants qui sortent de Chinon, c'est les gens qui ont vraiment pris le rôle d'ambassadeur et qui ont vraiment exercé le ministère de la réconciliation et mis en pratique la parole. C'est ça le vrai zéro. Quand je préparais pour ce matin, j'ai effectivement le sentiment que Dieu voulait que je partageais sur le ministère de la réconciliation. Je me dis, mais Seigneur, il connaît ça. C'est les gens bien fondés, ils ont un très bon pasteur, ils connaissent la parole, ils connaissent forcément ça. Et j'avais le sentiment que Dieu dit, c'est tellement important comme sujet qu'en début d'année, c'est vraiment le bon message à passer. Donc, même si on connaît, même si on est au fait de tout ça, c'est bien d'avoir les repères. C'est bien, effectivement, que Dieu nous ouvre les yeux pour voir ses plans, ses projets, pour voir les gens avec qui on est en contact, avec qui on peut avoir une influence, avec qui on peut peut-être les bouger d'une catégorie vers une autre. Jusqu'à il vienne un jour, j'ai un problème, j'ai trouvé une solution, je veux maintenant donner ma vie à Jésus. Amen. Amen.